Osmose Radio.
La web radio du off.
Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure.
Toujours sur Osmose, chers amis, soyez les bienvenus dans Un œil en coulisses, l'émission où on va jeter un petit coup d'œil indiscret derrière le rideau qui camoufle ces théâtres avignonnais qui sont en fusion un petit peu pendant cette période du Festival Off 2017 en ce mois de juillet. Soyez les bienvenus, disais-je, avec Stéphane. Moi, je me ferai fort de vous accompagner pendant tout ce mois de juillet avec mes petits collègues d'Osmose Radio. Et comme vous l'aurez sans doute remarqué en vous promenant dans les rues d'Avignon, avec ce soleil implacable, cette chaleur qui nous accable, eh bien, décidément, les corps se dénudent. Il y a pas mal de gens qui transpirent à port, que veux-tu. Et du coup, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de dignité. Tous ces corps dénudés, décidément, c'est la décadence, j'ai envie de dire. C'est la corruption. Alors, ça me paraissait tout à fait opportun de commencer cette première émission avec un spectacle qui annonce la couleur et une compagnie qui se fait fort d'illustrer ça sur scène un petit peu tard le soir quand les enfants sont couchés, quand même. C'est le spectacle Divine Décadence pour lequel je reçois les comédiens, à savoir Jean-Christophe Bournine, bonjour.
Bonjour.
Accompagné d'Émilie Jobin, oui, réciproquement. Bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Christophe Bournine, dont le pseudo est un petit peu compliqué, c'est Merakazan, c'est ça ?
Merakazan, voilà. Merakazan. C'est un nom de scène. Même si je suis en solo sur scène, je pense qu'avoir un nom comme n'importe quel groupe de musique actuelle, c'est sympa.
D'accord. Et Émilie Jobin, dont le pseudo est Émilie Jobin. C'est quand même plus facile.
Oui, c'est difficile à retenir.
Alors, tous les deux, vous présentez c'est un peu une nouveauté pour vous, puisque c'est votre premier festival off, j'ai cru comprendre, hein, c'est bien ça ?
Ouais.
Vous présentez le spectacle Divine Décadence, tous les soirs à 23h20, à l'Archipel Théâtre. C'est à côté de la porte Saint-Dominique, face aux allées de l'Oul. C'est un endroit qui, auparavant, s'appelait le Célimène Théâtre, et qui a changé de nom, mais qui n'a pas changé de place, et qui a une programmation assez variée, et qui se conclut notamment à 23h30 le soir, avec votre spectacle, spectacle qui est à la fois de la poésie, à la fois de la danse, qui n'est pas vraiment une pièce de théâtre à proprement parler, même s'il y a une continuité tout au fil du spectacle par les textes que vous aurez choisis. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu ensemble. Et alors on va commencer par vous présenter vous, avant d'en venir au spectacle. Jean-Christophe Bournine, vous êtes tous deux originaires de Nice. On dit qu'à Nice, il y avait beaucoup de Russes blancs qui s'étaient installés. Permettez-moi de vous poser la question. Alors vous avez des origines orientales finalement liées à ça ?
Il paraîtrait, mais c'est très très lointain et j'ai jamais vraiment su. Le nom est d'origine russe et très bizarre, enfin bizarrement apparemment pas puisqu'on avait expliqué l'histoire. On n'en trouve plus beaucoup déjà et puis les seuls qu'on trouve de Bournine c'est plutôt en Algérie. Et sachant que moi mon père est né au Maroc et est venu en France assez jeune. Voilà.
D'accord, donc le monde est un beau bordel, à Nice aussi, vous me rassurez, il n'y a pas qu'à Avignon. Et quant à vous, Émilie Jobin, donc vous êtes originaire de Nice tous les deux, quelle a été votre carrière, votre parcours avant de fonder la compagnie avec laquelle vous travaillez avec Jean-Christophe et faire ce spectacle ? Quel a été votre parcours un petit peu avant ça ?
Ah, moi j'ai toujours eu un travail de compagnie, j'ai fait partie de différentes compagnies toujours sur Nice, voilà, une espèce d'émulsion collective. Je ne suis pas trop pour travailler.
Je vous pose la question parce que j'ai l'impression, après vous avoir vu en spectacle, que vous avez plusieurs cordes à votre arc, que ce soit la chanson, la danse, l'interprétation, on a l'impression que vous touchez un petit peu à tout, c'est pour ça.
Oui, on est un petit peu obligé quand on reste à Nice, quand on a fait le choix de rester à Nice et pas d'aller à Paris par exemple. Oui, on est obligé d'être un peu multicorde.
Comme l'instrument de Jean-Christophe, puisque Monsieur Taki est né avec talent, la contrebasse, un instrument multicorde, lui aussi. Comme quoi vous vous êtes bien rencontrés tous les deux, vous vous êtes bien trouvés. Alors votre compagnie, c'est la compagnie SHA, S-H-A, qui est en fait un acronyme, mais j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que c'est que SHA alors ? Point, elle était facile.
Oui, c'était chat pour spectacle hybride alternatif. Alors comme ça peut sonner un petit peu très, très barré. Ça l'est pas, c'est simplement que nous on partait du constat que dans notre ville tout est assez cloisonné, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui font du théâtre, les gens qui font de la danse, les gens qui font des arts de rue et les gens qui font des concerts. Et puis par exemple en spectacle de rue on a beaucoup plus de mixité des disciplines. Et nous on voulait monter des spectacles comme ça où finalement, comme tu le disais tout à l'heure, on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est-à-dire c'est un objet qui prend au théâtre, qui prend au cabaret, qui prend au concert, qui emprunte comme ça dans sa forme en tout cas. D'où spectacle hybride, et puis alternatif, c'est parce qu'on y injecte un petit peu notre goût de toute une culture alternative qui est très vaste, en fait, dont on pourra parler plus tard.
Et donc, effectivement, il y a des petites références tout au long du spectacle, certaines que j'ai reconnues assez facilement, d'autres qui peut-être à côté desquelles je suis passé, vous saurez m'en dire plus tout à l'heure. Alors, ce spectacle, votre compagnie SHA, SHA, spectacle hybride alternatif, s'est créée en 2014 et Divine Décadence est votre première création. Elle date de 2014, donc vous avez eu le temps de la travailler un petit peu depuis.
Oui.
Mais c'est votre première fois que vous la présentez à Avignon.
Disons que la compagnie s'est créée pour ce spectacle, en fait, au final. Spectacle préexistait, puis après il fallait une structure pour le soutenir. Et dans toutes les structures avec qui nous travaillons sur Nice, c'est-à-dire d'autres compagnies, on ne voyait pas trop qui pouvait porter ce bébé-là, cet objet-là. Puis du coup...
Nécessité fait loi, finalement, et vous n'êtes certainement pas les premiers à me dire ça, que parfois, il faut parfois créer ses propres outils pour arriver à atteindre ses buts. Et la compagnie SHA, en l'occurrence, est le vôtre pour lequel vous avez créé ce spectacle. Je le rappelle, c'est une première à Avignon, et pourtant, ça s'inscrit dans un courant de spectacle, je ne dirais pas dont on a l'habitude, parce que ça reste quand même assez exceptionnel, mais pour autant, dont on a eu déjà des impressions dans d'autres créations, qui mélangent un petit peu comme ça les textes, la déclamation de textes, la récitation de poésie, pour appeler ça ainsi, et des interventions de danse, de parfois même de jeux du cirque, etc., des circassiens. Et sous la forme d'un duo, donc avec des effets réduits, des moyens techniques modestes, vous arrivez aussi à mettre en place ce genre d'ambiance. Et c'est tout à votre honneur pour le coup. Pourtant, je ne vous cache pas que de prime abord, j'avais une impression j'étais un petit peu réservé par rapport à ce spectacle, parce que je me disais, déjà le titre Divine Décadence, je me disais, oh là là, c'est une oxymore un petit peu facile, pardonnez-moi, hein, mais pour choquer le bourgeois et tout. Mais bon, comme l'esthétique propre à ce genre de spectacle me plaisait, je suis venu vous voir quand même, et bien moi, appris, puisque je m'attendais un peu par rapport au texte que je m'attendais à entendre, tous les poètes maudits, hein, Baudelaire, Verlaine, peut-être William Blake, que sais-je, etc., etc. Et alors je me suis assis dans la salle parmi les gens, le spectacle a commencé, alors là, bam, pas du tout, vous avez su me surprendre pour le coup avec un texte que je connaissais pour l'avoir entendu au cinéma, hein. Choose life, choose a career, choose a fucking washing machine, sauf que vous avez le bon goût de ne pas le faire avec l'accent écossais comme Ewan McGregor dans évidemment le très bon film Trainspotting, inspiré du roman d'Irvin Welsh. Alors du coup, ma question, elle est assez évidente. Comment vous est venu le choix des textes? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour choisir tel ou tel auteur et tel aspect de son œuvre? Vaste question, je reconnais.
Moi, j'étais déjà dans... J'avais envie de travailler sur Baudelaire, sur les poètes comme aussi Anaïs Nin, Sarah Kane. Mm-hmm. Et puis après, il a fallu chercher un petit peu autour d'eux pour étoffer le propos. Oui, choisir, c'était la balance. Il fallait bien commencer le spectacle. Donc, commencer par quelque chose d'un peu plus punk pour
c'est réussi.
Quelque chose de baroque.
Vous avez fait Amstramgram en fait parmi vos poètes préférés, non?
J'ai beaucoup, beaucoup lu d'abord tout ce que je connaissais pas sur mes poètes préférés. Oui. Puis après, j'ai cherché un petit peu ailleurs, j'ai trifouillé. Et on trouve des choses incroyables, des mots qui parlent tellement à l'âme qu'on a envie de les faire partager et d'étaler ça sur une scène.
Et alors, vous parliez d'Anaïs Nin, vous parliez de Baudelaire à l'instant. Effectivement, c'est des auteurs qui ont à la fois ce côté un petit peu organique dans leur charnel, dans leur prose ou dans leur poésie, et qui en même temps se rapprochent vraiment des choses de la sexualité, des choses qui étaient vraiment très très tabous à l'époque, en tout cas à l'époque de Baudelaire. Et de la part d'une femme, ça l'était encore à l'époque d'Anaïs Nin. Pour autant, on trouve aussi des aspects un petit peu différents de la littérature ou du théâtre, et je pense notamment à Kurt Weill avec un extrait de l'opéra de Katsu qu'on connaît par exemple la chanson Alabama Song, on la connaît notamment par la version des Doors,
oui, par les Doors,
et vous l'avez réinterprété dans une version plus lancinante, c'était assez surprenant. Là encore, et justement, j'en viens aussi à l'aspect musical, parce que tous ces textes que vous avez choisis sont aussi mis en musique. Alors évidemment, j'imagine que c'est le fruit de votre collaboration à tous les deux.
Oui, alors là, ça s'est passé de façon assez simple. Une fois que les textes ont été choisis, Émilie et moi, on se connaît depuis la fac. Donc ça fait, on ne dira pas nos âges, mais ça fait un petit moment. Et puis, on avait envie de travailler ensemble. Mais elle ne connaissait pas, finalement pas bien ma musique. Et puis, du coup, après avoir choisi les textes, et puis après avoir eu envie de faire une lecture en musique, au départ, avant de créer le spectacle, elle est venue me voir en concert où... Un concert où j'ai beaucoup improvisé, parce que c'était dans un petit lieu. J'aime bien faire des concerts comme ça, où je joue pas forcément mes compos, mais j'improvise beaucoup. Et à partir de là, elle a retenu des ambiances de ce que j'avais fait. Et du coup, moi j'ai composé de mon côté, mais elle aussi, par rapport à tel texte, elle pouvait me donner une indication d'ambiance. Par exemple, au début, les tentations, c'était, ça a changé depuis, mais c'était quelque chose de très orientalisant. Maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus cartoonesque. Voilà. Mais il y avait des indications comme ça. Ce texte-là, il faudrait plutôt que ce soit telle ambiance, telle ambiance. Et après, moi, à partir de là, je compose. Et dans les compositions, on s'est amusé à glisser quelques petites citations. Il y en a qui sont évidentes, il y en a une qui est moins évidente. C'est que justement, à la fin d'Alabama Song, il y a une espèce de truc un peu qui, on va dire, prend la tête. Et pour moi, c'est clairement un hommage à Bernard Herrmann, à Psychoise. Voilà, ça ne s'entend pas forcément, mais... Voilà.
J'ai pas su faire le rapprochement, je le reconnais. Mais c'est vrai que j'ai omis de le préciser tout à l'heure. Vous venez vous-même du conservatoire avec la contrebasse que vous taquinez et comment tout au long du spectacle. Et vous avez fait vos propres compositions avant même cette création-là. Et en l'occurrence aussi pour ce spectacle. Alors je tiens quand même à souligner vraiment la performance au niveau de la musique, sans forcément du tout remettre en question votre propre abord. Mais c'est vrai que moi, ça m'épate toujours de voir tout ce qu'on peut faire avec quelques moyens techniques modestes et un seul instrument, puisque vous utilisez un pad pour enregistrer des échantillons et ensuite les faire tourner en boucle, de sorte que vous donnez des rythmes en taquinant, en jouant à la fois à l'archet et à la fois au doigt de votre instrument, et à donner des indications de rythme, parfois même vous utilisez votre contrebasse comme percussion. Tout cela fait un maelstrom assez bluffant et qui nous donne du rythme, qui nous donne ce sentiment un petit peu étrange parfois, et vous êtes tout seul à faire ça pour la musique.
Oui. Bah à la base, moi, je fais ça. Enfin, ça fait à peu près 10 ans que je fais ça. C'est mon projet. J'ai toujours voulu faire ça. Déjà, la contrebasse, c'est un instrument qui me plaît parce qu'il est justement un gros générateur de son et qu'il y a énormément de possibilités dessus, au-delà de ce qu'on appelle au-delà des notes qu'il y a sur la touche. On peut aussi, avoir des percussions, générer des rythmiques, avoir des frottements, y mettre des objets dessus. C'est le cas dans le spectacle, notamment comme faisait John Cage avec ses pianos préparés. Et à partir de là, utilisant une pédale de looper, donc ce sont des pédales où on s'auto-échantillonne en temps réel, on s'auto-enregistre et puis après ça tourne en boucle, comme je disais. Sachant que là aussi, ces pédales, dès qu'elles ont eu existé, j'en ai eu de suite, donc ça fait un bon paquet d'années que je travaille avec ça. Ça permet d'avoir quelque chose d'assez... pas orchestral, puisque on n'est pas 80, mais d'avoir quand même de pouvoir faire des constructions sonores comme ça, en démultipliant les parties de contrebasse. Et aussi, ça permet d'aboutir à des textures assez intéressantes en utilisant quelques effets. Et puis surtout, bon, quand je parle d'effets, ce sont des effets électroniques, c'est-à-dire de la distorsion, des échos, des délais, des réverbes. Mais aussi, surtout, moi, ce qui m'intéresse sont les effets joués, c'est-à-dire les modes de jeu, comme on dit. Selon comment on attaque la corde, selon comment on va pincer une corde, selon comment on peut frotter un endroit, tout ça ce qu'on appelle des modes de jeu. Et là on peut aboutir à des textures qui peuvent être très très abstraites finalement, comme l'histoire des... Bon, on va pas dévoiler, mais l'histoire de la contrebasse préparée là, avec des objets dessus. On a des sons qui pour moi semblent être comme des gamelans balinés, des espèces de percussions comme ça, un truc entre la note, entre le pizzicato et la percussion. Et puis des stridences, puisque la corde est bridée. Et là, on est dans quelque chose de complètement musique concrète. Tout à l'heure, on parlait de I'm Sure the Neubotten. Moi, c'est une influence majeure. Je crois que c'est un des groupes qui m'a fait me mettre à la musique, finalement, quand j'avais 16 ans.
Donc, ah, carrément.
Ouais. Avec ça, Sonic Youth et 2-3 autres trucs.
Parce que c'est vrai qu'on connaît, on n'est pas forcément très familier de l'aspect technique qui vous fait partie de votre quotidien, mais c'est vrai que bon, moi il y avait ce côté complémentaire que je trouvais assez génial, de jouer à la fois à l'archet, ce qui est plutôt inhabituel pour la contrebasse, parce que le jazz nous a habitués à l'entendre jouer au doigt.
C'est le problème du jazz, c'est surtout on a cette image de la contrebasse dans le jazz, mais la contrebasse elle se joue à l'archet, à l'orchestre de toute façon, et puis par des grands solistes elle se joue aussi à l'archet en récital.
Ah mais je vous prie de croire que c'est une belle redécouverte pour le public, en tout cas pour moi.
Le grand public a tendance à connaître la contrebasse à travers le jazz, parce que c'est, et c'est très bien, parce que le jazz a quand même émancipé la contrebasse de son rôle accompagnateur et a fait beaucoup se développer, notamment le jazz et la musique improvisée, la technique de la contrebasse au XXe siècle, clairement.
Et alors effectivement, il y a des tas de... Vous savez panacher, utiliser de part et d'autre les effets acoustiques proprement de la technique de jeu qu'on vous a appris au conservatoire ou que vous avez redécouvert tout seul, et aussi les effets électroniques liés à ces samplers, ces échantillonneurs que vous utilisez sur scène et avec lesquels vous utilisez des boucles, etc. Là, on est plus du côté de Tangerine Dream que du côté de Jean-Sébastien Bach. Mais je crois que vous avez su faire en sorte que les deux se complètent.
Je préfère Jean-Sébastien Bach. Clairement. Et puis juste pour ajouter, ma contrebasse, elle est un petit peu spéciale, parce qu'une contrebasse traditionnelle a 4 cordes, et puis moi j'en ai une 5e, et c'est une corde aiguë en plus, pour aller plus dans la tessiture du violoncelle. Voilà.
Alors là, je voulais y venir, parce qu'il y a des moments où vous jouez vraiment dans les aigus, jouez au Peter Hook de la contrebasse, un petit peu comme Peter Hook jouait très beaucoup dans les aigus au sein de Joy Division quand il jouait de la basse. Vous, il y a quelque chose qui m'a intrigué, vous jouez vraiment dans les aigus sur votre contrebasse. Il y a des fois, je vous assure, ça donne vraiment le son du oud iranien, ce luth oriental. Voilà, donc j'ai été assez surpris par cette
performance. Complètement. Alors ça, c'est parce que c'est une grosse influence que j'ai, tout ce qui est musique extra-européenne qui se situe plutôt à l'est de là où j'habite, c'est une grosse influence, tout ce qui est arménien, Digan, oriental, moyen-oriental, iranien évidemment. Et cette technique-là, ce sont deux grands maîtres de la contrebasse qui me l'ont fait entendre pour la première fois à travers leurs disques et leur musique, puisque ce sont mes idoles absolues. Pour les citer, c'est François Rabat et Renaud Garcia-Fons qui ont vraiment développé cette technique-là, qui, je ne sais pas si elle a un nom, c'est l'archer jeté ou le spiccato, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et c'était vraiment fait pour... Et c'est vrai que Renaud Garcia-Fons, qui a une contrebasse à 5 cordes aiguës aussi, quand il fait ça sur sa corde de do aiguë, comme j'ai moi aussi, on est très proche du oud.
D'accord, donc c'est pas
un rebond comme ça, et puis il suffit de phraser ça sur une gamme un petit peu orientale avec des phrasés de quart de ton, et on est complètement... dans l'extra-européen.
Donc mon impression n'était pas totalement illégitime.
Totalement juste. Ouais.
Voilà. Et alors le premier nom que vous avez cité, je ne le connais pas, mais c'est vrai que Renaud Garcia-Fons, en faisant des recherches sur la musique médiévale, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de croiser son nom. Donc voilà, ça me parle un peu. Écoutez, pour que les auditeurs puissent se faire une petite idée, au moins audio, de votre spectacle et de l'ambiance de votre spectacle, je vous propose d'écouter un petit intermède tout de suite sur Osmose.
Abrutissement dans les bras de celui qu'on aime et qui vous pèse comme des fers. Amour avec n'importe lequel, avec n'importe laquelle. Alcool, débauche des drogues, nuit au lendemain de cendres et de ténèbres. Infernal appétit de frénésie bacchanale.
Non, c'est pas votre poste de radio qui a un petit problème, chers amis. À l'instant, c'était la stridence électronique, l'occurrence, et les ambiances du spectacle Divine Décadence, pour lequel je reçois Émilie Jobin et Jean-Christophe Bournine. Alors donc, vous aviez la voix grave, voluptueuse et un petit peu taquine d'Émilie à l'instant, et sur le son de contrebasse, joué à l'archer pour le coup, qui peut rappeler aussi de très loin le violon. La sensualité du violoncelle, et les deux se complètent vraiment très bien. Et par conséquent, je voulais en venir un peu à l'esthétique qui vous a touché et qui vous a inspiré pour mettre en place ce spectacle. Alors moi, j'ai vu quelques aspects assez divers, je vous les donne en vrac, vous me direz si ça correspond peut-être à des influences à vous. Au niveau de la danse que vous interprétez, Émilie, j'ai vraiment ressenti l'influence de ce qu'on appelle depuis une quinzaine d'années la danse tribal fusion, qui incorpore des éléments de danse orientale et des une esthétique qui vient du rock, plutôt du rock gothique et de l'imaginaire propre à cet univers là. J'ai aussi ressenti un côté un petit peu baroque, un petit peu barré au niveau de votre jeu de scène, cette coiffure par exemple en plume de paon avec laquelle vous commencez, le baldaquin qui orne la scène par exemple, et aussi au niveau de logo, et ça par contre j'aimerais vraiment que vous me confirmiez ou pas, au niveau du logo on ressent vraiment quelque chose qui vient de l'univers du surréalisme, puisque le visuel que vous avez choisi pour le spectacle fait clairement référence, à mon sens, à un film de Luis Buñuel des années 30, un film... C'est bien ça, alors je le décris pour les auditeurs et vous pourrez vous en faire une idée du visuel sur le site d'Osmose Radio bien entendu. On voit Jean-Christophe qui se tient derrière Émilie et qui lui passe l'archer au niveau de l'œil, et ça évoque cette scène très controversée du film Un chien andalou, ouais, de Luis Buñuel, où on voit un globe oculaire qui est coupé au scalpel.
Voilà, c'est bien, c'est ça, la donc première scène du film, c'est quelqu'un qui... on voit une lune, quelqu'un qui affûte un rasoir et qui vient couper l'œil d'une femme, et c'est voilà, le film de Salvador Dali et de Buñuel. Alors les gens connaissent beaucoup cette scène, il y a plein de gens qui connaissent que la scène sans avoir vu le film en entier, qui dure qu'un quart d'heure, et qui est un film de fou complet, quoi. Mais vraiment, et bien avant David Lynch, tout ça, et c'est complètement barré. Moi, je l'ai beaucoup fait en ciné-concert.
Ah d'accord, donc c'est...
Voilà, et puis, mais je crois que de toute façon, c'est toi, Émilie, qui a eu l'idée de recréer ça. Donc c'était une influence commune, de toute façon.
Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes vraiment bien trouvé. Oui, et dites-moi, Émilie, au niveau des... Enfin, de moi, ce que j'ai pu ressentir au niveau des influences que vous avez incorporées dans le spectacle, est-ce que j'ai eu le nez fin, est-ce que j'ai eu l'œil, ou est-ce que plutôt vous revendiquez d'autres choses? Par exemple, la danse Tribal Fusion, est-ce que c'est quelque chose qui vous a influencé, vous?
Je ne sais pas ce que c'est.
Ah d'accord, on a bien fait de se rencontrer, du coup.
C'est très drôle quand tu dis ça, parce que non, je pense pas qu'elle ait eu du tout ça en tête. Par contre, moi, la Tribal Fusion, je connais bien et j'aime beaucoup, évidemment. Mais non, c'était pas... Et c'est...
Mais peut-être la danse orientale.
Tant mieux si ça ressemble à ça aussi.
Bah, vous l'avez peut-être recréé à l'insu de votre plein gré, comme disait l'autre. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même les influences de la danse orientale vous ont influencé, clairement. Me trompe-je?
Oui, mais il y avait aussi ce désir d'aller sur quelque chose effectivement d'assez brut, donc forcément aller vers le tribal, aller vers le...
Collé au texte, oui. En quelque sorte, enfin, moi je vous ai vu telle une Lilith des temps modernes, voilà, pour ne rien vous cacher.
Bien sûr, il y avait tout ce monde des bacchanales qu'il fallait faire ressortir. Et au-delà des textes, on avait ce souhait de faire un spectacle sensitif et de créer des tableaux comme des tableaux de peintres. Donc oui, travailler beaucoup sur l'image, sur l'inconscient, laisser passer l'intellect. Bon, voilà, la poésie, de toute façon, logiquement, ne parle pas à l'intellect. Et puis d'ailleurs, on a beaucoup d'Asiatiques qui ne parlent pas français, qui viennent voir le spectacle et qui sortent de là, ils ont pleuré, ils ont ri, alors qu'ils n'ont pas compris un traître mot. Mais ils ont ressenti plein de choses et nous, on est ravis de ça.
Alors là, vous me faites la transition, parce que je voulais en venir au Shibari, qui est cette... d'ailleurs, je vais vous laisser le définir. Le Shibari, qu'est-ce que c'est au juste?
Le Shibari, c'est... à la base, c'était les tortures. C'était pour la torture réelle. Hein, et ça s'est transformé...
En torture consentante.
En torture qui mène au plaisir.
C'est cet art du bondage japonais.
Voilà, c'est un art érotique japonais qui consiste à attacher et à encorder des personnes.
Voilà, dans le cadre d'un jeu sexuel finalement.
Je crois même que ça a une origine martiale au départ, puisqu'on attachait les prisonniers et selon leur rang, on ne les attachait pas de la même façon. Enfin, moi j'ai entendu cette histoire, peut-être qu'elle est fausse, à un point tel qu'un samouraï, on ne l'attachait pas, parce que par honneur, il ne se serait pas échappé de toute façon.
D'accord. C'est peut-être aussi une légende urbaine. Hein. On fantasme beaucoup sur les cultures d'Extrême-Orient. Toujours est-il que le Shibari, effectivement, est un petit peu un thème sulfureux, de sorte que ça ne me semblerait pas incohérent que votre spectacle soit interdit au moins de 16 ans. Est-ce que c'est le cas?
Il est conseillé au public adulte.
C'est sûr, voilà, c'est tout.
Bon, voilà. Conseillé, oui.
Ou déconseillé au moins de 16 ans.
Nous, on n'interdit pas. Non, on n'interdit rien. Mais après, bon, en même temps, tu vois le visuel, tu as le titre, tu te dis que tu... Enfin, on joue pas à 9h du matin, c'est pas...
C'est pas non plus pornographique.
Non, voilà.
Voilà, c'est là que je voulais en venir. C'est que Shibari, en fait, donc on s'imagine des choses très sulfureuses, très érotiques, très même explicites peut-être sur scène. En fait, non, c'est assez gentil. Je dis ça d'autant plus que nous, à Avignon, on a Lucas Spira qui en a fait son métier.
Mais je crois qu'on l'a flyé, lui, il est passé en bagnole. Emilie l'a flyé et moi, je l'ai reconnu. J'ai dit, bon, j'espère qu'il viendra voir le spectacle.
Ah, bah, ce serait.
Parce que je sais que sa copine fait des shows aussi de Shibari.
Ah, bah, écoutez, donc vous aurez sans doute l'occasion de le recroiser. Mais voilà, Lucas Spira, lui, est vraiment un performeur de body art qui a fait des choses autrement plus hardcore entre guillemets, passez-moi l'expression. Donc non ça reste très accessible et moi qui suis pas un fan du Shibari, ce que vous avez fait sur scène n'était pas du genre à me repousser, loin s'en faut. Donc je tiens à préciser ça pour les auditeurs qui seraient peut-être un peu réservés par rapport à ce sujet. On peut vraiment apprécier les textes, l'ambiance et l'esthétique de votre spectacle sans forcément se laisser.
Dans ce spectacle on a quand même cherché la beauté, la poésie, la beauté y compris dans des images un petit peu trash, mais qui en deviennent belles aussi, symboliquement ou pas, ou même juste visuellement. Mais c'est le but, c'était d'avoir vraiment cet équilibre entre quelque chose d'un petit peu trash, mais quand même, c'est de la poésie et c'est la beauté avant tout. C'est pas, et il n'y a pas de provoque du tout. On n'est pas là pour provoquer qui que ce soit.
Non, c'était sublimer certaines perversités qui sont considérées comme de la perversité.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Eh bien, écoutez, merci d'être venu. Alors, vous faites vivre ce spectacle pendant tout le mois de juillet à Avignon. Pour le moment, ça commence doucement. La salle était à moitié pleine hier soir. Je souhaite que ça aille en croissant. Je rassure, c'est le cas aussi pour pas mal d'autres spectacles. Les salles à moitié pleines en ce premier week-end du Festival Off. Quels sont vos projets à l'issue du Festival d'Avignon au sein de la compagnie Chat, de retour à Nice?
On a trois autres spectacles sur le feu. Là, on a un trio musical qui reprend les standards de manière un petit peu... c'est mis en scène quand même, c'est un peu barré, c'est très décalé. Et ça, on a fait une petite sortie, ça fonctionne bien.
Oui, c'est bien. Et c'est tout très réarrangé par le guitariste. Tout est réarrangé harmoniquement par le guitariste, qui est un très bon arrangeur, compositeur.
On a une comédie avec des personnages qui s'inspirent des personnages d'Absolutely Fabulous.
Oui, bien sûr, la série britannique, la fameuse série britannique.
Voilà, ça, c'est déjanté, c'est à hurler de rire comme ça. Je précise, je suis pas dedans dans les autres spectacles. Mais évidemment, je les vois et c'est...
Elles viennent vous révéler les clés du bonheur.
Ah, ben, on attendait que ça, parce que le bonheur se fait attendre parfois. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être venu présenter ce petit bout de bonheur que vous produisez sur scène tous les soirs à 23h30 à l'Archipel Théâtre, anciennement le Célimène, près de la porte Saint-Dominique, au sein du Festival Off. Et pour rester un petit peu dans les ambiances de votre spectacle et pour parler une des influences majeures que vous revendiquez, entre autres, on parlait du groupe allemand Einstürzende Neubauten tout à l'heure, qui est entre les ambiances gothiques et les ambiances martiales industrielles. Bien, je vous propose tout de suite d'écouter quelques notes du morceau Snake.
de pisse.